France Inter. Les admirations littéraires.
Denis Podalydès. J'ai choisi Annie Ernaux pour ses admirations littéraires parce que depuis un certain temps, je la relis beaucoup. Je dis relire, c'est fait prétentieux, mais effectivement, j'ai quand même beaucoup lu Annie Ernaux. Et là, probablement pour des raisons familiales, j'ai beaucoup relu Une femme. Je lis aussi le journal Je ne suis pas sorti de ma nuit. Ces deux livres concernent la fin d'existence de sa mère, qui est intervenue en 1986. Et je pensais beaucoup à Annie Ernaux parce que, en travaillant sur Pierre Bourdieu pour un livre, je me suis rendu compte que je les associais volontiers et qu'avec un grand plaisir, j'avais retrouvé des lignes magnifiques d'Annie Ernaux sur Pierre Bourdieu, qui est un philosophe et sociologue, un intellectuel qui a beaucoup compté pour elle et qu'elle place même dans la littérature. Et j'ai toujours pensé qu'Annie Ernaux était probablement l'écrivaine qu'un Pierre Bourdieu pouvait attendre, le pendant littéraire de sa recherche, c'est-à-dire une écriture très personnelle, d'un très beau style, extrêmement tenu, qui raconte à la fois un destin singulier et un destin collectif. Je suis toujours frappé que dans les lignes d'Annie Ernaux, on n'y trouve pas de traces de subjectivité romantique, sentimentale, légèrement boursouflée. N'importe qui, dans les lignes d'Annie Ernaux, aussi belle soit-elle, peut retrouver ce qu'il a senti, ce qu'il a vécu, ce qu'il a éprouvé. C'est toujours très très frappant à quel point cette femme, avec cette écriture au couteau, comme elle l'appelle, cette écriture incroyablement travaillée, c'est pas du tout de la spontanéité, atteint parfois le cœur de son époque, le cœur de ce qui en elle est à la fois, concerne absolument tout le monde, est à la fois donc tout à fait singulier et universel. Très peu d'écrivains atteignent à ça dans une seule phrase et elle y arrive et elle fait énormément penser à Flaubert pour ça. Quand Flaubert écrit Madame Bovary, par exemple, à chaque page, on sait toujours que ce personnage de Madame Bovary, mais comme tous les autres, appartiennent non seulement à une conscience littéraire, celle de l'écrivain Flaubert, mais aussi appartiennent d'une certaine manière à la vraie vie. C'est comme s'il avait si profondément compris une singularité de son temps.
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir. J'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles ces choses-là. Suis-je la seule à penser à ça? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore.
Admiration littéraire de Denis Podalydès sur France Inter.
Donc Annie Ernaux, je commence par le début d'une femme, paru en 1987 chez Gallimard. Il est, vous allez voir dès le premier paragraphe, le sujet de ce livre qui est donc La mère d'Annie Ernaux. Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de l'hôpital de Pontoise, où je l'avais placée il y a 2 ans. L'infirmier a dit au téléphone « Votre mère s'est éteinte ce matin après son petit déjeuner. Il était environ 10 heures. » Pour la première fois, la porte de sa chambre était fermée. On lui avait déjà fait sa toilette. Une bande de tissu blanc lui enserrait la tête, passant sous le menton, ramenant toute la peau autour de la bouche et des yeux. Elle était recouverte d'un drap jusqu'aux épaules, les mains cachées. Elle ressemblait à une petite momie. On avait laissé de chaque côté du lit les barres destinées à l'empêcher de se lever. J'ai voulu lui passer la chemise de nuit blanche, bordée de croquets, qu'elle avait achetée autrefois pour son enterrement. L'infirmier m'a dit qu'une femme du service s'en chargerait, elle mettrait aussi sur elle le crucifix, qui était dans le tiroir de la table de chevet. Il manquait les 2 clous fixant les bras de cuivre sur la croix. L'infirmier n'était pas sûr d'en trouver. Cela n'avait pas d'importance, je désirais qu'on lui mette quand même son crucifix. Sur la table roulante, il y avait le bouquet de forsythia que j'avais apporté la veille. L'infirmier m'a conseillé d'aller tout de suite à l'état civil de l'hôpital. Pendant ce temps, on ferait l'inventaire des affaires personnelles de ma mère. Elle n'avait presque plus rien à elle, un tailleur, des chaussures d'été bleues, un rasoir électrique. Une femme s'est mise à crier, la même depuis des mois. Je ne comprenais pas qu'elle soit encore vivante et que ma mère soit morte. À l'état civil, une jeune femme m'a fait demander pourquoi c'était. Ma mère est décédée ce matin. À l'hôpital ou en long séjour? Quel nom? Elle a regardé une feuille et elle a souri un peu. Elle était déjà au courant. Elle est allée chercher le dossier de ma mère et m'a posé quelques questions sur elle, son lieu de naissance, sa dernière adresse avant d'entrer en long séjour. Ces renseignements devaient figurer dans le dossier. Dans la chambre de ma mère, on avait préparé sur la table de chevet un sac en plastique contenant ses affaires. L'infirmier m'a tendu la fiche d'inventaire à signer. Je n'ai plus désiré emporter les vêtements et les objets qu'elle avait eus ici, sauf une statuette achetée lors d'un pèlerinage à Lisieux avec mon père, autrefois, et un petit ramoneur savoyard, souvenir d'Annecy. Alors, ce sont les 2 premières pages de ce livre, donc qui commence par la mort de sa mère, et le livre va être ensuite consacré à raconter l'histoire de cette vie, avec toujours cette distance objective, pudique et, à mon sens, infiniment vibrante. Il y a soudain une phrase, je ne sais pas si je le fais passer, mais le constat semble rester froid, comme ça. Ce petit détail, comme ça, qui intervient, elle n'avait presque plus rien à elle, un tailleur, des chaussures d'été bleues et un rasoir électrique. Il y a quelque chose d'incongru, il y a quelque chose d'extrêmement pauvre, quelqu'un qui arrive tout au bout de la vie, dépouillé de ses affaires personnelles, et il ne reste presque plus rien. Et puis, à la fin du paragraphe, le petit souvenir du pèlerinage à Lisieux et le petit ramoneur savoyard qu'on va retrouver ensuite, puisque le reste du livre évoque des souvenirs et va évoquer la femme qui était sa mère et qui était une femme extrêmement énergique, voire brutale. Annie Ernaux a des pages absolument magnifiques sur la violence même qui est en elle, qui ne pouvait jamais s'empêcher de traiter les objets avec brutalité, déplaçant les chaises violemment, qui était une femme qui travaillait dans une épicerie, qui était très dure au mal, très travailleuse, issue de la classe ouvrière ou paysanne, je ne sais plus vraiment, mais qui était une femme à l'énergie farouche avec laquelle elle s'était heurtée toute son enfance, toute son adolescence. Et le père était plus faible, plus assourdi, était mort aussi d'ailleurs bien avant.
Vous avez beaucoup souffert, mais cette mère, vous l'avez détestée, parce qu'elle vous haïssait, parce qu'elle avait une fille aînée qui est morte et dont vous avez pris la place, parce qu'elle n'avait qu'un code, c'était la religion,
oui,
et qu'elle vous a servi à ce code, et que
Mais oui, mais il y a eu l'amour au départ. Ma mère, j'ai écrit, j'ai cherché son amour partout dans le monde. Et je crois que c'était la personne la plus importante pour moi, telle qu'elle était, avec ses codes que j'ai ensuite violemment refusés à l'adolescence. Mmh. Et tout ressurgit au moment de sa maladie d'Alzheimer parce qu'elle a des accès de paroles violentes où elle ressurgit justement tout ce que j'ai détesté.
Alors je vais passer un petit peu au hasard, un petit bonheur la chance, enfin j'espère pas trop, entre le texte « Une femme » et le texte « Je ne suis pas sorti de ma nuit », c'est-à-dire le récit composé et le journal, qui est le journal des derniers temps de la vie de sa mère. Et il y a quelques jours, j'ai repris ces pages de journal, et donc il y a la même scène, la mort, mais... Il y a des détails qui sont concomitants, et puis la différence que fait Annie Ernaux entre l'écriture d'un livre composé, et l'écriture de journal, où elle enferme le présent, qui est une écriture tout à fait immédiate, qui ne songe pas à une construction d'ensemble. Mais je pense qu'il est intéressant de passer de l'un à l'autre. Alors, c'est comme un journal, donc les jours sont datés. Lundi 7, elle est morte. J'ai une peine immense. Depuis ce matin, je pleure. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tout est là. Les comptes sont arrêtés, oui. On ne peut pas prévoir la douleur. Ce désir de la voir encore. Ce moment est arrivé sans que je l'aie imaginé, prévu. Je la préférais folle que morte. Je la préférais folle que morte. J'ai envie de vomir. J'ai mal à la tête. J'ai eu tout ce temps pour me réconcilier avec elle, mais je n'en ai pas fait assez. Ne pas avoir pensé hier que c'était peut-être la dernière fois que je la voyais. Les forsythias que je lui ai apportés hier étaient encore sur la table, dans le pot à confiture. Je lui avais aussi apporté du chocolat fruit des bois, et elle avait mangé toute la tablette. Je l'avais rasée, lui avais mis de l'eau de Cologne. C'est fini. Elle n'était rien que la vie. Elle tendait les mains en avant pour attraper. Elle ressemble à une pauvre petite poupée. J'ai remis à l'infirmière la chemise de nuit dans laquelle elle voulait être enterrée, blanche à dentelle. Ils ne veulent pas qu'on fasse quoi que ce soit. Je voulais la lui enfiler. Je ne l'entendrai plus. Je n'arrive pas à me rappeler ses paroles d'hier, aucune. Si, elle a dit à des gens... Prenez des sièges, installez-vous. Quelque chose comme cela. Vous voyez, le ton est extrêmement différent du ton flaubertien, disons, de l'ouverture du livre Une femme. Et là, elle le dit quelque part, je crois, c'est dans l'introduction de ce journal. Elle a écrit ces lignes dans la panique même, dit-elle. Elle écrit, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, elle écrit sa douleur. Et donc, il y a quelque chose de parfaitement à vif dans des phrases aussi simples que ces deux phrases séparées par un point. Elle est morte, j'ai une peine immense. Et je trouve ça, quand une grande écrivaine comme elle arrive à cette quintessence, on sent bien que dans ces lignes-là, elle n'est pas dans une recherche esthétique, elle est dans la consignation d'un fait. Et moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas s'engouffrer dans la douleur immédiate de ces lignes et les prendre pour soi. Sentir que soit on est passé par là, soit on y passera. Pas forcément nous quand on meurt, mais quand on est devant ce fait qu'un proche, son père, sa mère, quelqu'un de si lié à toute notre vie, disparaît. Je continue à passer comme ça du journal à ce récit parce que on a le sentiment d'affronter la mort brute, la mort telle qu'elle est, c'est-à-dire le réalisme dans le sens peut-être le plus exact du terme, c'est-à-dire la chose sans aucun même jugement porté sur la chose là, devant nous. C'est-à-dire comme un tableau, une photo réaliste qui fait apparaître. Et en fait, curieusement, pour atteindre ce sentiment de l'immédiateté, ce sentiment du réel et rien que du réel dans toute sa rugosité, eh bien, il faut beaucoup d'art. Il faut même être un grand écrivain pour y parvenir, ou une grande écrivaine comme l'est Annie Ernaux. Dans la semaine qui a suivi, il m'arrivait de pleurer n'importe où, En me réveillant, je savais que ma mère était morte. Je sortais de rêves lourds dont je ne me rappelais rien, sauf qu'elle y était, et morte. Je ne faisais rien en dehors des tâches nécessaires pour vivre, les courses, les repas, le linge dans la machine à laver. Souvent, j'oubliais dans quel ordre il fallait les faire. Je m'arrêtais après avoir épluché des légumes, n'enchaînant sur le geste suivant, de les laver, qu'après un effort de réflexion. Lire était impossible. Une fois, je suis descendu à la cave, la valise de ma mère était là, avec son porte-monnaie. Un sac d'été, des foulards à l'intérieur. Je suis resté prostré devant la valise béante. C'est au dehors, en ville, que j'étais le plus mal. Je roulais et brutalement, elle ne sera plus jamais nulle part dans le monde. Je ne comprenais plus la façon habituelle de se comporter des gens. Leur attention minutieuse à la boucherie pour choisir tel ou tel morceau de viande me causait de l'horreur. Cet état disparaît peu à peu. Encore de la satisfaction que le temps soit froid et pluvieux, comme au début du mois, lorsque ma mère était vivante. Et des instants de vide, chaque fois que je constate « ce n'est plus la peine de » ou « je n'ai plus besoin de » faire ceci ou cela pour elle. Le trou de cette pensée, le premier printemps qu'elle ne verra pas. Sentir maintenant la force des phrases ordinaires, des clichés même. Et ça, je trouve ça infiniment magnifique, c'est reparcourir, elle le fait souvent dans son œuvre, des clichés rebattus, les exposer dans la page, et sentir à la fois ce qu'ils ont de vrai, ce qu'ils ont d'un peu pauvre, et même ce qu'ils ont de beau, ce en quoi ils portent la condition humaine, de la façon la plus modeste qui soit, mais pas au sens de petit, de mesquin, mais au sens de universel, unanime. Enfin, on est obligé d'en passer par là. La mort de sa propre mère, comme ça, nous remet dans le cliché de vivre, dans l'instant où c'est pareil pour tout le monde. Et j'adore parce que nous avons tous senti ça. Quelqu'un disparaît et on se dit « il ne sera plus jamais nulle part dans le monde ». J'ai vécu ça et le fait qu'elle ait cette attention aux choses les plus fines, les plus petites, aux choses que partagerait tout le monde, c'est précisément ça qui l'intéresse et c'est ça dont elle fait une matière littéraire, sans l'anoblir, sans l'enjoliver, d'une manière assez brute, voire brutale même. En même temps, je crois que ça a un effet d'ailleurs très bénéfique, parce qu'on ne se sent pas seul à ressentir ces choses-là.
Denis Podalydès lit Annie Ernaux.
Je vais continuer d'écrire sur ma mère. Elle est la seule femme qui ait vraiment compté pour moi, et elle était démente depuis 2 ans. Peut-être ferais-je mieux d'attendre que sa maladie et sa mort soient fondues dans le cours passé de ma vie, le cours, hein, C-O-U-R-S, dans le cours passé de ma vie, comme le sont d'autres événements, la mort de mon père et la séparation d'avec mon mari, afin d'avoir la distance qui facilite l'analyse des souvenirs. Mais je ne suis pas capable en ce moment de faire autre chose. Il y a aussi chez elle cette obsession et en même temps cette incapacité. Elle n'arrive pas à faire autre chose qu'écrire sur elle et elle ne sait pas encore trop que faire. En fait, le journal, elle l'écrit dans un coin. Le journal a dans l'œuvre d'Annie Ernaux une fonction très différente des récits. Les récits, il y a une volonté de dresser un personnage, un ensemble de situations. Et comme je l'ai dit dans le journal, c'est de saisir, de capter du pur présent sur le vif. Ce n'est pas le même but et le rapport à la grande histoire, par exemple, ou à la politique, n'est pas le même. Je continue un autre passage. Qui suit le précédent que j'ai lu, là, je vais continuer d'écrire sur ma mère, et qui est dans Une femme. C'est une entreprise difficile, écrire sur ma mère. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement, en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps. Elle était violente. C'était une femme qui brûlait tout, et d'évoquer en désordre des scènes où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que depuis quelques jours, dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi, la femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie et morte dans le service de gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Là, il y a tout le projet littéraire de d'Annie Ernaux qui s'inscrit. Et je ne sais pas si elle est consciente, d'ailleurs, en écrivant cette phrase, qu'elle enveloppe tout son projet littéraire. Ce que j'espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu'il s'agit de chercher une vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. C'est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité. Mais je souhaite rester, d'une certaine façon, au-dessous de la littérature.
Admiration littéraire de Denis Podalydès sur France Inter.
Les lignes d'Annie Ernaux sont d'une densité telle qu'on pense toujours que ça ne pourrait pas être écrit autrement. Et que le sens de ce qu'elle dit, ça me fait penser à la grande prose du XVIIe siècle, où on a toujours ce sentiment que tout est dit dans un minimum de mots et qu'il n'y a pas le moindre excès, qu'il y a une rigoureuse correspondance des mots et de la chose, que la chose est enserrée par ces mots-là et uniquement ces mots-là. J'ai ce sentiment-là avec de telles phrases. Chercher une vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. Et alors elle le cherche en fait de deux façons, si je peux dire, dans le récit qui s'appelle Une femme, et 10 ans plus tard, elle publie aussi l'autre manière dont elle a essayé de capter ce présent qui la faisait horriblement souffrir. Et c'est pour ça qu'elle a écrit sans doute les pages de journal dans une souffrance telle qu'elle avait, elle aurait peut-être eu honte de les publier telles quelles et qu'elle a dû sans doute corriger d'une certaine manière ou d'une autre en publiant. Donc, parce que finalement, d'une certaine manière, là, dans Une femme, vous savez, dans le deuil, après la disparition, il y a une fatigue immense. Le mot stupide qui viendra à l'esprit, c'est soulagement. Et ça, Annie Ernaux ne supporte pas de l'entendre. Parce qu'il se passe dans les derniers temps de la fin de vie, cette espèce de retournement de la mère en petite fille et de la petite fille en mère, il se passe une aventure humaine qui est d'une telle fragilité, d'une telle difficulté à vivre. Sans le vivre soi-même, c'est très très difficile à le communiquer, ça. Et ce que je trouve très très beau, c'est qu'elle le communique, tout simplement. Et donc, elle consigne les derniers jours, ces moments où elle s'accroche elle-même à l'existence de sa mère, et sa mère s'accroche à sa fille. Ben d'ailleurs, lundi 11, elle est très agitée, ne cesse de vouloir arracher la barre de son fauteuil roulant. Elle s'y cramponne et tire de toutes ses forces, contractée. Cette violence me renvoie à celle qu'elle avait à l'égard de tout, de moi. Elle me fait horreur, à nouveau. L'image de la mauvaise mère, brutale, inflexible. Insupportable odeur de merde, mais je ne sais pas quand je pourrai la changer moi-même. Je lui ai donné à manger par petits morceaux. Elle ne m'a pas regardé une fois. Maintenant, elle ne dirait plus « c'est ma fille » en me voyant arriver, comme l'an dernier. Souvenir d'elle assise sur le seau de chambre, gestes impudiques, cette étrange promiscuité de femme qu'elle m'imposait dans mon enfance, qui m'a fait horreur plus tard. Même enseignant toujours l'orgueil, tu supportes ça? C'est-à-dire, toi, tu acceptes d'être traité ainsi? Par mon mari. Scène absolument terrible, mais qui raconte aussi cette duel qui traverse pas mal de livres de son œuvre, notamment notre roman qui s'appelle La Honte, qu'on voit aussi dans La Place, c'est-à-dire où se lit aussi ce qu'on peut désigner sous le nom de transfuge de classe, le fait que Annie Ernaux a toujours eu le sentiment qu'en entrant dans le monde intellectuel et bourgeois, par l'obtention de diplômes, l'état d'enseignante et un mariage plutôt bourgeois, s'était séparée de son monde natal ouvrier de Normandie, fille de petits commerçants normands, de la petite ville d'Yvetot, et qu'elle avait trahi ce monde, et que ses parents lui en voudraient, et notamment sa mère. Là, donc je viens de lire ce texte dans le journal, « Je ne suis pas sorti de ma nuit », qui est d'ailleurs une phrase, la dernière phrase que sa mère a écrite en voulant écrire à une voisine, je crois, ou à une amie. Et Annie Ernaux a gardé cette phrase comme une sorte de viatique. La seule phrase littéraire que peut-être sa mère aura jamais écrite et par laquelle elle touchait profondément sa fille et elle se rejoignait totalement. Un autre passage, donc, de « Une femme ». Soudain va éclater, enfin j'espère, au visage de l'auditeur, j'espère que je ne déprime pas les foules en arpentant ces pages très dures, je le concède, la femme que cette mère a été. Image d'elle, entre 40 et 46 ans, un matin d'hiver, elle ose entrer dans la classe pour réclamer à la maîtresse qu'on retrouve l'écharpe de laine que j'ai oubliée dans les toilettes et qui a coûté cher. J'ai su longtemps le prix. Un été, au bord de la mer, elle pêche des moules à Veules-les-Roses avec une belle-sœur plus jeune. Sa robe, mauve à rayures noires, est relevée et nouée par devant. Plusieurs fois, elles vont boire des apéritifs et manger des gâteaux dans un café installé dans un baraquement près de la plage. Elles rient sans arrêt. À l'église, elles chantaient à pleine voix le cantique à la Vierge. J'irai la voir un jour, au ciel, au ciel. Moi, j'entends ma grand-mère qui chantait très fort et très faux à la messe le dimanche, et je m'en veux de pas connaître ce « j'irai la voir un jour au ciel, au ciel ». Et ce qui est le détail qui vient juste après. Cela me donnait envie de pleurer et je la détestais. Elle avait des robes vives et un tailleur noir en grains de poudre. Elle lisait « Confidence » et « La mode du jour ». Elle mettait ses serviettes avec du sang dans un coin du grenier jusqu'au mardi de la lessive. Ça, ce détail revient souvent. La petite fille qu'elle était a été horrifiée par le fait que sa mère mettait de côté jusqu'à la lessive ses culottes souillées. Bref. Quand je la regardais trop, elle s'énervait. « Tu veux m'acheter ?» Le dimanche après-midi, elle se couchait en combinaison avec ses bas. Elle me laissait venir dans le lit à côté d'elle. Elle s'endormait vite. Je lisais, blottie contre son dos. À un repas de communion, elle a été saoule et elle a vomi à côté de moi. À chaque fête, ensuite, je surveillais son bras allongé sur la table, tenant le verre, en désirant de toutes mes forces qu'elle ne le lève pas. Là, ce sont des images qui reviennent en rêve de cette lutte. C'est peut-être ça aussi qui est bouleversant dans ce texte. C'est que le combat entre une fille et sa mère aura duré aussi et dure encore jusqu'à l'extrême. Et en même temps, cette espèce de tendresse absolue qui jaillit au détour de la phrase, elle s'endormait vite, je lisais, blottie contre son dos. Beau à pleurer. Je comprends aussi qu'elle ait eu tant de mal en se donnant le devoir d'écrire ou en cherchant par l'écriture à surmonter cette espèce de rage, de douleur dont on est capable dans ces moments-là, et surtout à elle dans le rapport avec sa mère. Elle avait toujours envie de communiquer. La fonction du langage demeurait intacte en elle, phrase cohérente, mots correctement prononcés, simplement séparée des choses, soumise au seul imaginaire. Elle inventait la vie qu'elle ne vivait plus. Elle allait à Paris, elle s'était acheté un poisson rouge, on l'avait conduite sur la tombe de son mari. Mais quelquefois, elle savait. Je crains que mon état ne soit irréversible. Où elle se souvenait. Et là, le mot, verbe « savait » et le verbe « se souvenait » sont en majuscule. Où elle se souvenait. J'ai tout fait pour que ma fille soit heureuse et elle ne l'a pas été davantage à cause de ça. Et on retrouve, même dans la démence, jusqu'au fond de la démence, le rapport conflictuel avec sa fille et que sa fille, Annie Ernaux, consigne dans un mélange de tendresse, de culpabilité et peut-être aussi encore de cette rancune d'autrefois. C'est-à-dire que les sentiments sont mêlés. Elle a passé un autre hiver. Le dimanche après Pâques, je suis venu la voir avec du forsythia. Il faisait gris et froid. Elle était dans la salle à manger avec les autres femmes. La télévision marchait. Elle m'a souri quand je me suis approché d'elle. J'ai roulé son fauteuil jusqu'à sa chambre. J'ai arrangé les branches de forsythia dans un vase. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai donné à manger du chocolat. On lui avait mis des chaussettes de laine brune montant au-dessus du genou, une blouse trop courte qui laissait découverte ses cuisses amaigries. Je lui ai nettoyé les mains, la bouche. Elle avait la peau tiède. À un moment, elle a essayé de saisir les branches de forsythia. Plus tard, je l'ai ramenée à la salle à manger. C'était l'émission de Jacques Martin, l'école des fans. Je l'ai embrassée et j'ai pris l'ascenseur. Elle est morte le lendemain. Il y a une phrase juste après qui dit « Maintenant, tout est lié ». Et là, je vois que le livre « Une femme » rejoint presque, pas tout à fait mot pour mot, mais presque la première chose que j'ai lue. Le journal lance le livre ou le livre revient au journal. En tout cas, c'est là où on sent que ces deux livres forment le tombeau de la mère d'Annie Ernaux. J'ai découvert Annie Ernaux à l'émission d'Apostrophe, ça devait être en 78, quand elle a publié La Place. Et j'ai vu une très belle femme. Et je me rappelle que même mon père, qui suivait toujours distraitement un peu Apostrophe, avait quand même levé un sourcil devant la beauté de cette jeune femme. Ma mère avait été immédiatement passionnée par cette femme qui était professeure, comme l'était ma mère, et qui parlait, je me rappelle que ma mère avait dit « elle parle très bien ». Et elle avait dit ça en voulant dire « elle parle à la fois de manière très mesurée, très précise, très calme et sans excès, sans enjolivure ». Ma mère avait été très touchée par ça, et ma grand-mère, qui était libraire, avec qui on débriefait tout le temps l'émission d'Apostrophe, avait elle-même été très touchée par l'apparition de ce nouvel écrivain, parce qu'on ne disait pas écrivaine à ce moment-là. Voilà, j'ai aimé profondément cette écriture. Annie Ernaux, c'est l'écrivaine qu'on pourrait le plus rapprocher de l'œuvre de Pierre Bourdieu.
Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. La prise de son a été réalisée par Rémi Sistiaga. Le mixage a été assuré par Titouan Labarre. Elle a été réalisée par Stéphane Ronxin.